le 7-9.
Il est 7h47, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est présidente de la Commission européenne.
Bonjour madame la présidente Ursula von der Leyen.
Bonjour madame Salamé.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors la France a pris ce 1er janvier la présidence tournante de l'Union européenne pour 6 mois et vous êtes en visite aujourd'hui et demain à Paris avec les 26 commissaires européens. Comme le veut la tradition, vous vous rendez à chaque fois dans le pays qui prend la présidence. D'abord, qu'attendez-vous précisément de cette présidence française de ces 6 mois?
Tout d'abord, je me réjouis du lancement de la présidence française. Et oui, les enjeux sont nombreux. Nous sommes presque à mi-mandat en Europe. Et maintenant, il faut avancer sur nos nombreuses propositions. Tout d'abord, sur les deux grands thèmes que sont la lutte contre le changement climatique et bien sûr la transition numérique. Mais bien sûr aussi sur la crise actuelle, la lutte contre la pandémie, avec une bonne coordination dans la santé et la relance économique. Et enfin, sur nos propositions pour une Europe plus souveraine. Et ça va de la protection des frontières extérieures à l'avancée sur la défense européenne. Vous voyez, il y a beaucoup à faire.
Et il y a beaucoup à faire, on va revenir sur chacun des points que vous avez cités. Mais Emmanuel Macron espère que 2022 sera un tournant pour l'Union européenne. Il a pris des engagements ambitieux sur le salaire minimum dans toute l'Union, la régulation des géants du numérique, la taxe carbone aux frontières européennes. Mais le Covid et ce variant Omicron qui explose partout en Europe ne va-t-il pas tout chambouler ? L'agenda, les ambitions françaises sont-elles encore tenables à votre avis ?
Vous avez raison, bien sûr, la lutte contre la pandémie est absolument prioritaire. Mais le changement climatique n'attend pas, ça s'aggrave. Il faut donc en parallèle maîtriser les crises et avancer les tâches. Et je trouve que l'agenda est très ambitieuse, mais faisable.
Emmanuel Macron a décidé de maintenir la présidence française de l'Union européenne, alors même qu'on rentre dans une campagne présidentielle et législative intense en France. Et vous le savez, la France arrête de vivre et de respirer une fois tous les 5 ans pour ne parler que de la présidentielle. Il a été critiqué par l'opposition pour ne pas avoir reporté la présidence française de l'Union européenne. Pensez-vous qu'il pourra réformer en profondeur l'Europe, comme il l'a promis, tout en continuant à faire campagne pour sa réélection?
J'ai maintenant vu plusieurs présidences et je dois dire, je suis impressionnée par l'ambition et la bonne préparation de la présidence française. Le rôle d'une présidence, c'est de trouver des accords. Et la France a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Et je suis très confiante que la présidence française sera un succès.
Ursula von der Leyen, comment avez-vous reçu la polémique sur le drapeau européen sous l'Arc de Triomphe qui a choqué la droite, l'extrême droite et l'extrême gauche en France?
C'est une bonne chose et c'est important que la présidence ait choisi d'afficher les couleurs de l'Europe. Nous étions très emballés de voir le drapeau européen affiché sur les grands monuments. Et je sais que la France est très fière de sa longue histoire et son drapeau qui la symbolise. Et sans la France, il faut le dire, jamais l'Union européenne ne serait avancée comme aujourd'hui. Moi, je trouve la France et l'Europe, ça va très très bien ensemble.
L'Union européenne est censée, dès le mois de mars prochain, commencer à revenir à une plus grande rigueur budgétaire, à un plus grand contrôle des États et de leurs dépenses publiques. En clair, à la fin du quoi qu'il en coûte au niveau européen. Là aussi, le variant Omicron ne remet-il pas en cause ce calendrier, madame la présidente?
Tout d'abord, nous avons suspendu les règles du pacte à cause de la crise. Et la crise n'est pas finie. Donc, les règles normales ne s'appliqueraient que l'année prochaine, quoi qu'il arrive. Mais en parallèle, nous allons faire des propositions pour une modernisation des règles. Bien sûr, nous allons faire ça après avoir consulté tout le monde qui est nécessaire de parler sur ce sujet.
C'est fini la règle des 3%, c'est terminé?
On discute l'état de l'économie et après ça, on va entrer dans la phase où on va se demander comment moderniser les règles.
Ursula von der Leyen, le sommet Union européenne-Afrique doit se dérouler en février prochain. Il sera question évidemment de la solidarité vaccinale. On rappelle que seuls 7% de la population africaine est vaccinée. Alors l'Europe ne devrait-elle pas aider beaucoup plus le continent africain?
Et jusqu'ici, nous avons exporté ou donné 1,5 milliard de doses. C'est-à-dire nous sommes le plus grand exportateur au monde. Mais à part des donations, il est important que le continent africain, et vous l'avez mentionné, soit capable de produire des vaccins lui-même. C'est pour ça que nous avons lancé le projet d'apporter la technologie ARNM en Afrique. Nous investissons 1 milliard d'euros en tout et nous allons redoubler les efforts car on ne pourra battre la pandémie que si nous la battons partout, ça c'est sûr.
Il y a aussi une question qui fait bondir les écologistes de tous les pays européens, c'est la fameuse taxonomie, c'est-à-dire que la Commission européenne va labelliser les énergies en fonction de leur impact environnemental et elle va classer, on l'a appris il y a quelques jours, elle va classer comme énergie durable des activités liées au nucléaire et au gaz. La ministre autrichienne du climat juge ce texte inacceptable. Le ministre de l'énergie luxembourgeois vous accuse d'éco-blanchiment. Classer le nucléaire comme énergie verte pour faire plaisir à la France et le gaz pour satisfaire l'Allemagne, est-ce écologiquement acceptable ?
La taxonomie, c'est un label de contrôle pour les produits financiers. C'est pour les investisseurs privés et ça donne la transparence aux investisseurs privés. Il leur montre si un produit financier contribue à la transition vers la neutralité climatique. Bien sûr, chaque État membre décide de son bouquet énergétique, si nous prenons l'exemple du gaz. Il arrive seulement dans la taxonomie premièrement, si le gaz remplace le charbon est beaucoup plus sale, et deuxièmement, à la condition que la centrale énergétique soit construite prête pour remplacer le gaz par l'hydrogène à terme. C'est-à-dire, c'est une technologie, le gaz, une technologie de transition pour sortir du charbon et arriver à l'hydrogène vert. Là, ça va avec la taxonomie.
Mais vous
et le nucléaire, vous m'avez demandé.
Oui, le nucléaire, ça par exemple en Allemagne.
Seulement dans la taxonomie, ce label de contrôle, quand la technologie la plus avancée et la plus sûre du monde est utilisée.
Oui, mais vous pensez que c'est acceptable pour beaucoup d'écologistes, ça les heurte quand même.
Ils contribuent vraiment à la transition vers la neutralité climatique. Ça, ce sont les préconditions. Pas chaque gaz, pas chaque nucléaire, mais avec des conditions strictes que j'ai décrites.
Parmi les priorités de cette présidence française, Emmanuel Macron a aussi parlé d'une réforme de l'espace Schengen pour que l'Europe sache protéger ses frontières face aux crises migratoires. Vous le savez, la question migratoire est un sujet sensible dans beaucoup de pays européens, dont la France. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, notamment en France, vous avez dû les entendre, il faut arrêter l'immigration, il faut fermer les frontières, car nous sommes en train de perdre notre civilisation, notre âme. Vous leur répondez quoi ?
La migration est un fait. Ce qui compte, c'est sa gestion. Il faut bien sûr contrôler les frontières parce qu'on veut savoir et contrôler qui vient. D'une part, il nous faut une procédure efficace pour ceux qui ont droit à l'asile. Et d'autre part, il faut être très clair que ceux qui n'ont pas le droit de rester retournent dans leur pays d'origine. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur le pacte sur la migration et l'asile pendant la présidence française.
Donc il ne faut pas fermer nos frontières. Vous êtes contre une immigration réduite ou une immigration zéro.
C'est la gestion de contrôler les frontières. Ça, c'est important.
Vous avez parlé d'une guerre hybride lors du conflit avant Noël à la frontière européenne entre la Biélorussie et la Pologne où des migrants avaient été utilisés comme des boucliers humains par le régime de Loukachenko. Le gouvernement polonais dit vouloir construire un mur à sa frontière pour protéger sa frontière avec la Biélorussie. L'Union européenne va-t-elle financer un tel mur ?
Là, notre position de longue date est que l'argent européen ne peut pas servir à financer des murs et des barbelés. En revanche, nous finançons bien entendu la gestion et la protection des frontières, comme je l'ai décrit il y a un instant, avec, par exemple, la surveillance électronique, des drones, les véhicules de patrouille, par exemple, l'équipement pour les gardes frontières, c'est-à-dire sur la période qu'on a maintenant de 2021 à 2027, cela représente tout de même plus de 6 milliards d'euros.
Une Europe puissante, vous la souhaitez, Emmanuel Macron aussi, c'est une Europe qui fait entendre sa voix. Or, dans le conflit sur l'Ukraine, l'Union européenne semble être absente. Vladimir Poutine parle directement à Joe Biden aux États-Unis. Il ne prend même pas la peine de dialoguer avec les Européens. Il discute de la sécurité de l'Europe sans les Européens. Est-ce que vous y voyez une forme de mépris du président russe ? Comment peser ? Comment se faire respecter ?
L'Union européenne est très présente dans son soutien à l'Ukraine. J'étais là en octobre, par exemple, nous soutenons financièrement l'Ukraine énormément. Et l'Union européenne a également imposé des sanctions contre la Russie pour son agression. Le plus important, c'est de voir qu'au bout du compte, la solution passera forcément par l'Europe.
Mais Poutine, il nous méprise ?
Il a sa stratégie, mais c'est à nous de répondre avec notre stratégie.
Encore deux petites questions pour finir. Vous assisterez demain à un hommage à Jean Monnet et à Simone Veil, deux grands Européens. Qu'est-ce que Simone Veil représente pour vous, Ursula von der Leyen, vue de Bruxelles et vue d'Allemagne ?
Ah, Simone Veil, elle a été témoin des heures les plus sombres de notre histoire. Elle est une figure importante de notre mémoire collective. Elle est importante pour la réconciliation. Et la réconciliation, c'est la base du projet européen. Elle a été la première femme présidente du Parlement européen, représentant ainsi l'Europe unie et démocratique. Et son combat pour le droit des femmes nous inspire encore aujourd'hui, tous. Je suis un grand fan de Simone Veil.
Vous êtes une grande fan de Simone Veil, son combat pour les droits des femmes. Vous dirigez la Commission européenne tout en étant mère de famille. Vous avez 7 enfants. Vous en êtes fière d'ailleurs, on peut le voir sur votre compte Twitter. Vous êtes la preuve au fond qu'une femme peut tout avoir comme un homme, une grande carrière et une vie de famille épanouie.
Oui, c'est à cause de mon expérience personnelle que j'ai toujours lutté pour la réconciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Et bien sûr, je pourrais parler des heures sur ce thème-là, mais je crois que ce serait trop long pour cette interview. C'est une chose très, très importante pour moi.
Merci beaucoup, Ursula von der Leyen. Merci d'avoir accordé un entretien exceptionnel, exclusif à France Inter. Merci à vous.
Merci beaucoup, Madame Salamé.
Belle journée.
Et merci Léa, tout à l'heure 8h20. Merci également à Ghislain Fontana pour la réalisation de cet entretien. Il est 7h58.